mais cette saison, j'irai entendre Raoul Tavara par Mico Franck.
Orchestre, chœur et maîtrise de Radio France, abonnez-vous. Nouvelle saison des concerts de Radio France, brochure gratuite au 01 56 45 16 et sur concert.radiofrance.fr.
Abonnez-vous.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, un répondeur, c'est tout de suite maintenant.
Les Romains ont été cruels envers Jésus. La crucifixion, c'est une mort lente et douloureuse. Mais à Holyland, c'est bien pire. C'est de la barbarie pure et simple. Non seulement notre Seigneur agonise longuement, mais en plus, il lui faut endurer en fond sonore une musique dégoulinante, si sucrée que t'en attrapes des caries aux oreilles, le tout devant un troupeau de ravis de la crèche, la bouche pleine de Goliath Burger. Et franchement, pour ce qui est de revenir après Armageddon, il y a matière à réflexion. Même un fils de Dieu a ses limites, j'imagine. C'était Christine du Limousin.
Il y avait dans la foule un petit garçon émerveillé qui racontait Jésus. J'ai vu le beau jeune homme blond, son petit mouton et son pantalon. J'ai vu Jésus porter sa lourde croix, tomber et se relever tout ensanglanté. J'ai vu le Golgotha, ses lauriers roses, ses lauriers blancs, son palmier et quelques plantes grasses. J'ai vu Jésus soulagé de la croix, qui avait du mal à grimper dessus. J'ai vu le gros clou dans les pieds croisés. J'ai entendu les coups de marteau insupportables et le bruit d'un portable. J'ai vu le suaire rouge, le tombeau vide. J'ai vu les petits oiseaux multicolores voleter sur la croix et la colombe s'envoler. Merci Daniel Mermet pour ce beau moment d'enfance.
Cher Daniel Mermet, j'écoute très souvent tes émissions. Celle sur les anciens pêcheurs de Bretagne était inoubliable. Celle sur les judéo-chrétiens d'Orlando, déroutante. Oui, quelqu'un a aidé Jésus à porter la croix. Il s'appelait Simon de Cyrène, ça tout le monde le sait. Il n'y avait pas qu'un clou dans ses pieds, c'est prouvé par les études sur les supplices infligés par les Romains. Renseigne-toi un petit peu mieux avant tes émissions sur la foi chrétienne, mais je t'en veux pas du tout. Marc Dalpi, auditeur fidèle de tes émissions. Merci Daniel.
Bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Et merci infiniment pour cette chanson concernant une histoire de souris blanche. C'était si drôle. C'était Sébastien. Au revoir.
Oui, c'est Tina de Bordeaux. Merci pour ce florilège sur le répondeur, puis pour la chanson sur la révolution permanente. Ça fait chaud au cœur quand il fait si froid.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre le témoignage d'Annette dans la voiture. Quelle émotion. On croit savoir plein de choses sur cette guerre, mais ça, je ne l'ai jamais entendu. Moi, j'étais enfant au moment de la guerre d'Algérie. Je découvre toujours plus d'horreur. Merci. J'avais envie de dire merci à Annette pour ce qu'elle nous a transmis. Au revoir.
Elle vient à peine de se terminer que me vient l'envie irrépressible de stopper le temps pour un moment. Regarder la ville, regarder les gens, apprécier ma vie simplement. Elle est belle ma vie, et il en faut des comme toi pour se le rappeler un peu tous les jours. Un oiseau en face de moi, puis deux, puis trois. De quoi me faire penser à nouveau que le hasard n'existe pas. C'était pas de la radio, ça. C'était la vraie vie. Et j'espère pouvoir te garder en moi assez longtemps pour ressentir la beauté, la grâce et gratifier chaque jour un peu plus tout ce qui fait ma belle vie. C'était Aude à Strasbourg.
Oui, je suis émue. Émue par la conclusion. La conclusion de la émission sur le répondeur. Daniel Mermet qui chante le temps des cerises. Mais oui, émue je suis.
Oui, salut Daniel. Voilà, un auditeur qui a écouté l'émission là aujourd'hui sur les poètes, qui a trouvé cette émission vraiment magnifique, pleine de grâce, de légèreté, de tendresse. Et ce qui m'a vraiment aussi vraiment fait plaisir, c'est d'entendre la voix de ma fille, qui avait laissé un message un jour en disant qu'elle avait entendu une mouche dans le micro de Daniel Mermet. Donc c'était vraiment adorable. Et alors du coup, bon, j'avais pas pu l'écouter en entier aujourd'hui, donc j'ai réécouté ce soir sur le là-bas.org et je suis tombé sur l'émission sur Claude, qui était alors vraiment après l'émission d'aujourd'hui, vraiment magnifique. Bref, tout ça, c'était très très beau moment.
Ouais, ben c'est Georges-Philippe là. Ben écoutez, là j'ai vécu un moment absolument, grâce à vous, absolument fantastique. Enfin bon, voilà, je vous écoute, j'écoute Mermet depuis, je sais plus, depuis 25-30 ans, et là j'ai un truc, je sais plus. Voilà, donc je vous dis merci à vous, et putain, ça me donne de l'énergie pour tout, voilà, dans des périodes un peu, on va dire, difficiles. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, salut.
À propos de cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc ce matin, j'ai appris que les propriétaires avaient été indemnisés en monnaie sonnante et trébuchante, et les esclaves ont été indemnisés par un contrat de travail. Donc, est-ce qu'on peut supposer que le contrat de travail n'est que la suite de l'esclavage? Et d'autre part, sait-on que des fortunes qui existent encore, maintenant, ont été construites au moment de l'esclavage? Voilà, ça serait bien d'y penser.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. On va parler d'esclavage aujourd'hui, mais je voudrais vous dire d'abord à quel point ces messages qui ont suivi l'émission de vendredi sur vos messages précisément, les poètes et les poétesses de là-bas, si j'y suis, tous ces messages nous font un bien fou. Merci, c'est très flatteur pour nous. Alors on se les écoute, on les réécoute, et ça nous fait le plus grand bien. Vendredi, cela dit, c'était aussi la célébration, la journée pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Chaque année, désormais, depuis 2001, le 10 mai, c'est la journée pour célébrer l'abolition de l'esclavage. C'est un grand moment, cette abolition de l'esclavage, parce que pour lutter contre la traite négrière qui a duré des siècles, il fallait lutter contre, bien sûr, les colons, contre les exploitants de tout poil, qui avaient l'appui des souverains, des gouvernements et des églises. C'était une montagne extraordinairement puissante contre laquelle il fallait lutter. Et il fallait lutter avec quoi? Eh bien, avec une idée, une seule idée, l'idée d'égalité. L'idée d'égalité. L'égalité, ça ne va pas de soi. Rien ne nous dit quelque part, de façon certaine, que l'égalité est préférable à l'inégalité. Et en ces temps, aujourd'hui, où les inégalités se creusent à travers le monde, c'est pas mal quand même de penser à ce que fut ce triomphe de l'idée d'égalité. Alors on a vu pour cette célébration du 10 mai de cette année, on a vu le CRAN demander des compensations financières, notamment pour Haïti. On a entendu la ministre de la Justice, Madame Taubira, elle préférait aller vers des politiques foncière pour l'outre-mer en lien avec les séquelles, les ultimes séquelles de l'esclavage. Nous, on va revenir à Ouidah, sur la côte de l'ex-Dahomey, la côte du Bénin, pour essayer de revivre ce que fut cet esclavage, le moment où les hommes partaient, tournaient autour de l'arbre de l'oubli après avoir été marqués au fer rouge. Et puis, on va rencontrer quelqu'un qui est un descendant d'esclavagiste, un homme absolument sans complexe, souriant, qui fait partie de ces hommes qui pensent que, que voulez-vous, c'est comme ça, et on n'y peut rien. C'était il y a quelques années avec Guy Van Til, on était un petit peu sur les pas de Bridget Chatwin, vous allez voir, là, ça va vous rappeler quelque chose pour ceux qui aiment les écrivains voyageurs, un retour à Ouidah sur la côte des esclaves. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour la maison de la radio. Le prochain repère de Bègle aura lieu ce mercredi 15 mai à partir de 19h au bar-restaurant Le Poulailler, place du 14 juillet, à Bègle donc. Et ce sera sur le thème de l'habitat coopératif. A bientôt.
Ouais! Sauvez un Européen! Mangez un banquier!
Alors comme ça, la religion serait un business, voire une industrie? Oh mon Dieu! Place Saint-Sulpice, à Paris, il y a un magasin qui vend des objets du culte et des vêtements, soutanes, vêtements pour bonne sœur, etc. Eh ben, je vais vous dire un truc. Quand on voit le prix, on se dit qu'il vaut mieux dépouiller un curé ou une bonne sœur plutôt qu'une élégante du 16e arrondissement habillée en Dior, en Courrèges ou en Hermès. C'est quand même vachement plus rentable.
Ce jour dîner, j'ai encore accommodé les chaussettes avec des fils de couleur. Et ce raccommodage s'est transformé en étoile. En étoile de couleur, et toi, Daniel, tu es le centre de ces étoiles quotidiennes. Longue vie à toi d'une manière si égoïste pour nous tous, tes fidèles. Si fidèles. Ces messages quotidiens que tu reçois sont des déclarations d'amour. Ceux de haine, on les combat avec acharnement. Balèque à eux. Tu es comme un secret bien gardé sur les ondes, car aucun média ne parle de Daniel Mermet. Personnellement, je préfère le pornographe du phonographe de Brassens à Jean-Jean Le Rimailleur. J'aime beaucoup Claude de Nîmes, celui-ci est une vraie merveille. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Après cela, il n'y a rien à dire. Merci à vous tous, chers camarades. Tenez bon la route, on est presque arrivé.
Dimanche soir, je viens d'écouter le spécial répondeur. Que dire? Qu'ajouter? Si, quand même. Un mot, un seul. Un de ces mots qu'on utilise partout, dont on a vidé le sens. Alors, un simple mot pour cela? Merci. Merci pour ce spécial répondeur.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base, j'y suis. Avec qui vanque-t-il? Ouida, la côte des esclaves.
Flight number 2, arriving from...
Vous pouvez avaler un serpent vivant devant moi, je dirais tout ce que je suis en train de dire. C'était ça, la réalité, c'est ça.
Excepté qu'il ne sait ni mugir, ni hennir, et qu'à sa mort, on ne tire parti ni de sa chair, ni de sa peau, il n'y a aucune différence entre un nègre, un bœuf ou un cheval. Simon Nicolas Linguet, Théorie des lois civiles, 1767. La négritie est une grande région d'Afrique divisée en plusieurs royaumes dont les peuples sont si nombreux qu'il leur serait difficile de subsister si, par le trafic d'esclaves, ils n'étaient pas déchargés tous les ans d'une partie de ceux qui l'habitent. Gérard Méliès, maire de Nantes, 1725. L'esclavage, c'est à ce prix que vous mangez du sucre. Les blancs sont supérieurs aux nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Cette dernière phrase est de Voltaire. Combien? Combien? 10 millions? 15 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui, durant 3 siècles, furent déportés à travers l'Atlantique vers l'Amérique et la Caraïbe. La plupart sont partis d'ici, de cette côte des esclaves, du Bénin où nous sommes hier, Dahomey. Beaucoup sont partis de Ouida, qui en portugais veut dire aide, de l'aide. Ouida, grand comptoir négrier, aujourd'hui à l'abandon, vide, engourdi, où quelque chose rôde jusqu'à l'océan, à travers la lagune, depuis l'océan jusqu'à nous, un tourment, une hantise qui tourne en cercle de poussière rouge, une ombre, on dirait, une âme. On dirait, les déportés n'en finissent pas de tourner autour de l'arbre de l'oubli et de l'arbre du retour. Là-bas, si j'y suis, au Bénin, ex-Dahomey à Ouida.
Homme d'affaires, responsable d'entreprise, une clientèle fidèle, c'est le gage de l'élargissement de votre marché. N'oubliez pas que l'ORTB vous permet d'informer vos clients où qu'ils se trouvent. La direction des relations publiques de l'ORTB à votre service, boîte postale 366, téléphone 31 21 68, Cotonou.
Que passe hombre, buscando la vida. Fem passe un trai a la misère pour un jeune garçon pas vrai travail mais les pito fait youl ou cuitiria ou pas jambe moins maï moulin ou pas moins pas boquet 12 graines banane sous coffre estomac moi aïe 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 maman chérie moi que tu pitié pour moi oh.
Alors ça, c'est l'arbre de l'oubli.
Oui, c'est... Il y avait un arbre à cet emplacement. Et c'est autour de cet arbre que les esclaves doivent tourner pour oublier les événements de leur pays. Les hommes vont tourner 9 fois, les femmes 7 fois. Chez nous, le chiffre 9 est réservé aux hommes et le chiffre 7 est réservé aux femmes. On dit que les hommes ont 9 côtes et les femmes ont 7 et que chacun aura tourné autour de cet arbre compte tenu du nombre de ses côtes afin d'oublier les événements de leur pays.
Alors là, en fait, tout ce chemin, depuis l'arbre aux enchères, il y avait la maison là-bas des esclaves, dans le fort, ensuite l'arbre aux enchères.
De là aux enchères, on vient ici.
Ensuite, tout ce chemin-là, et qui est maintenant, tout le long du chemin, on a érigé des statues. Qui représentent quoi, ces statues?
C'est les emblèmes de chacun des rois d'Abomey.
Ah, oui. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner... Ah, les esclaves mâles, c'est un peu malheureux comme expression. Ça fait un peu animal, ça. Devaient tourner autour de lui 9 fois, les femmes 7 fois. Ces tours étant accomplis, les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ah, ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines et leur identité culturelle pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller. C'est une drôle d'opération, ça. Oui. Hein, c'est quand même une drôle de chose.
Cet arbre a été remplacé par ce jeu.
Ah, il y a un petit arbre.
Oui.
Il y a un petit arbre de l'oubli qui a été replanté à côté de cette statue.
Oui. Statue mémoriale.
Mais qui est à l'origine de cette idée de tourner, de ce cérémonial de l'arbre?
C'était les négriers eux-mêmes.
Ah, c'était les négriers eux-mêmes
qui avaient initié cette méthode.
La méthode de l'oubli et de l'amnésie.
Oui, oui.
Évidemment, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce qu'après tout, les gens sont arrivés là-bas, ils ont continué d'adorer les dieux qu'ils adoraient ici.
C'est ça, ils ont emmené leur vaudou avec eux.
Oui, oui.
Ils ont emmené leur fétiche
beaucoup
avec
eux. Beaucoup de systèmes. La manière de port de vie, et d'enfants, la manière de porter des bagages.
Sur la tête.
La manière de s'habiller, tout a été importé là-bas. Ça veut dire que les esclaves n'ont pas oublié les événements. C'est la manière dont ils ont traité qui ont fait que les esclaves sont fatigués et ils ont compris qu'ils n'ont pas à se défendre. Ils sont obligés de continuer la route.
Ouais. Oui.
Mon frère de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud, opprimé du monde entier, ne perdez jamais d'espoir. Tant que la terre tourne, la route tournera toujours. Mais un jour, nous serons assez forts pour contre le vent qui souffle. Le soleil ira enfin pour nous, nous aurons et je ne cesse d'appeler les bons dieux à mon secours. Mais jamais pris d'angoisse et il répond par le silence.
Silence du bon Dieu aux prières de ces nègres, comme on disait, nombreux, qui sont passés par ici, qui sont passés par Ouida, et qui ont emprunté ensuite ce chemin jusqu'à la mer, jusqu'aux pirogues, jusqu'aux bateaux négriers, où ils sont partis. On sait que 20-30% d'entre eux allaient mourir en mer pendant la traversée. Mais aujourd'hui, la chanson qu'on entendait, celle d'Africando, ce groupe du Bénin, s'adresse, chante en créole de la Martinique et s'adresse aux frères de Guyane, des Antilles, etc. C'est-à-dire que l'oubli n'a pas marché. On a fait tourner les négriers avec la complicité des rois locaux, des rois autochtones, notamment des rois d'Abomey, tâchaient de dépouiller de leur humanité, c'est-à-dire de leur spiritualité, c'est-à-dire de leur famille, c'est-à-dire de leur lien avec les leurs et avec leur terre et avec leur Dieu, ces hommes, ces femmes et ces enfants, pour les mettre dans ces bateaux, eh bien, ça n'a pas marché. Les hommes ont gardé cette mémoire essentiellement à travers leur religion. Les dieux ont accompagné les hommes dans les Amériques et les âmes des hommes sont revenues sur le Dahomey, le Danhomey, la maison du serpent, la terre du serpent. Les nègres se détruisent, disait en 1701 le bon abbé là-bas. Ils se pendent, se coupent la gorge sans façon, pour des sujets fort médiocres. Le plus souvent, c'est pour faire de la peine à leur maître. Ce sombre cauchemar, ce long et sombre cauchemar que fut l'esclavage, qu'on le veuille ou non, n'a pas fini de hanter nos mémoires. Esclavage atlantique, celui que nous connaissons le mieux, le moins mal, fameuse traite négrière, le commerce triangulaire, qu'il faut mettre en rapport avec le fait que l'esclavage est une très vieille coutume, qu'aujourd'hui ça continue, 200 millions d'esclaves à travers le monde, et on sait qu'au moment de cette traite négrière qui a suivi la découverte en 1492 de l'Amérique, il y avait de l'autre côté de l'Afrique de l'Est une traite également au profit, disons, des pays arabes, de la péninsule arabique, du Yémen, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça fait aux gens qui vivent ici, qui vivent toujours là, dans leur esprit, dans leur mémoire, dans leur sensibilité, lorsque nous, les Blancs, les Yovo, nous arrivons, par exemple, dans l'école de Ouida, dans la classe de Madame Pauline Kassa-Sosa, qui a accepté que nous posions aux enfants qui sont là, qui doivent avoir 12 ans, peut-être 11 ou 12 ans, ce que leur dit le mot esclavage.
Les rois vendent des esclaves.
Les rois du Dahomey avaient des esclaves.
Oui. Les Blancs viennent de l'Amérique. Ils amènent des pacotilles, des miroirs, des fusils pour échanger les esclaves contre ces pacotilles. Les rois du Dahomey prennent ces pacotilles et donnent ces esclaves aux Blancs et qui amènent en Amérique. Ils les font marcher sur une voie qui présentement on dit le port de nos retours. Ils prennent des gens costauds qui peuvent bien travailler dans les plantations de canne à sucre. Le jour que les Européens doivent venir pour acheter ces esclaves,
il les fait sortir sous l'arbre. Ces esclaves sont composés de des hommes et des femmes. Ils font le tour.
Il y avait des enfants aussi, hein?
Oui. Chaque acheteur prenne quelque chose pour marquer ses esclaves, pour que les esclaves ne perdent pas.
Ne se perdent pas. Avec quoi? Faut préciser.
Avec de fer. Ils marchent sur la route. On sait tout ce que je sais pour l'esclavage.
Ils marchent vers où? Quand ces esclaves-là quittent Somaï, hein, et les invalides, là, on les enterre dans la fosse commune, ils marchent pour aller où? Et on les empaque dans, on les parque dans quoi?
Dans les bateaux.
Et ils sont à l'aise là-bas, hein, dans le bateau.
Non,
il faut préciser. Viens ici, toi, viens ici. Viens.
On les attache avec la corde dans les bateaux. Ce que nous avons fait, c'est pas juste. Parce que aujourd'hui, pour l'Afrique, si l'esclavage va encore continuer, l'Afrique sera vide. Et à cause des Américains,
Français aussi.
Et des Français, des Européens qui viennent chercher nos saeux en Afrique.
Je suis là si le bon arrive pendant la nuit, faisait la passion, voyant passer proche de militaires parmi les.
Évidemment, les adeptes de la francophonie doivent être tout émus en entendant ces petits-enfants de Ouida chanter cette chanson où il est question de Napoléon. Il faut rappeler que l'esclavage a été aboli par la Convention en février 1794, le 4 février 1794 exactement, puis rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802. L'esclavage fut véritablement aboli, pour ce qui concerne la France, en 1848, grâce entre autres au combat de Victor Schœlcher. Alors, visite donc à Ouida, ancien port négrier sur la côte des esclaves, sur la côte de Guinée. Et là, on va au musée, il y a un petit musée à Ouida qui est installé dans un fort, dans le fort portugais. Les Européens qui venaient là, c'était les Portugais qui sont venus les premiers sur ces côtes, qui sont installés dès 1472. Par là, la première intention n'était pas le commerce négrier, mais la première cargaison d'esclaves africains partis d'Afrique date de 1503, parce qu'entre la conquête Et cette date-là, eh bien, on avait déjà eu le temps, très très peu de temps, en une dizaine d'années, d'exterminer une grande partie des populations autochtones, notamment pour ce qui nous concerne, nous autres Français. À Saint-Domingue, en 1517, Charles Quint autorisera l'importation de 15 000 esclaves noirs. Alors, visite dans ce petit musée de Ouida avec notre guide Gabriel.
Et voilà, les chaînes des esclaves.
Ah, c'est ces entraves-là.
Oui, oui.
Là-bas, avec, on attachait ça au quoi, aux jambes au...
On mettait ces esclaves au cou et aux pieds. Les esclaves sont enchaînés par ces chaînes ou bien avec le bois d'ébène.
Alors c'est une sorte de carcan qu'on autour du cou comme ça.
Oui.
On enchaîne, on attache les hommes, les enfants, les femmes de cette façon.
Même le bébé au dos. Et ces bouteilles contenaient des liqueurs données en échange des esclaves. Et pour une bouteille ayant la forme carrée, le roi n'ayant jamais vu quelque chose comme ça, il est très content. Et il demande au maître, celui qui a amené cette bouteille, de lui dire le nombre d'esclaves qu'il doit donner pour qu'il soit content de ce magnifique cadeau qu'il venait de lui apporter.
Mais pour une bouteille carrée, combien d'esclaves?
On peut donner plus de... Ça dépend du temps. On peut donner plus d'esclaves qu'un canon. Alors pour un canon, quand le canon est bien grand, c'est 15 esclaves. Donc on peut arriver à donner 20 esclaves pour une bouteille ayant la forme carrée.
20 hommes contre une bouteille à la forme carrée. Oui. Voilà le marché.
Oui.
Alors ça, c'est une coupe de navire de négrier. Oui,
voilà.
Et on voit comment les esclaves étaient disposés.
Oui, les esclaves, ici, nous avons 227 hommes et 120 femmes qui sont disposés dans ces bateaux pour partir. Près de la moitié mourait et le reste couvrait quand même les dépenses.
La moitié, selon vous, la moitié mourait en route.
Oui, oui.
Et le reste qui était vendu à l'arrivée dans les colonies des Amériques, des Caraïbes et de l'Amérique latine
couvrait déjà les dépenses. Oui. Ici, nous avons la position des esclaves pendant la nuit.
Ici, c'est ça, c'est un dessin.
Oui, on oblige les femmes à se coucher sur le dos et les hommes sur le ventre. Et c'est le moment pour les maîtres de contempler la cuisse de ces femmes.
Ça, c'est pathétique, ce dessin, et c'est très beau, hein. Pirogue, au milieu des flots et des vagues, et des hommes se jettent à la mer. C'était fréquent, ça, selon vous?
Oui,
c'était
fréquent. C'était fréquent.
Oui. Amener dans des chaloupes jusqu'au navire négrier, ceux des esclaves qui ne s'étaient pas déjà suicidés à terre, étaient embarqués, grelottant de peur. Beaucoup de nègres croient qu'on va les manger, certains n'hésitent pas à se suicider. Et cela par des moyens parfois atroces, comme avaler leur langue ou manger de la terre. Suicides nombreux, rébellions quelques-unes au cours des siècles. La traite négrière a connu des hauts et des bas. Il faut savoir, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'évidemment, cette traite n'a pu exister qu'avec la complicité et la collaboration des rois locaux. En l'occurrence, pour ce qui concerne cette région, les rois du Dahomey, les rois notamment d'Abomey, l'esclavage était une institution en Afrique, même une forme d'organisation sociale, où le captif était un bien, une marchandise. On le verra d'ailleurs dans le Code noir, au temps de Colbert, notre Colbert à nous, comment, eh bien, entre un nègre et un meuble, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que l'homme est un objet, l'homme est une marchandise, on voit comme c'est une constante, quelque chose de presque normal dans l'histoire de l'humanité, que toute la question est d'échapper à la condition d'objet pour devenir un sujet. Alors, en contrepartie de cette vente d'esclaves par ces rois, par ces potentats locaux, eh bien, c'est l'introduction de fusils, d'armes, de canons même, en l'occurrence, et donc la consolidation des pouvoirs locaux. Et les États de la côte des esclaves, c'est-à-dire du Sénégal jusqu'à l'actuel Angola à peu près, eh bien, ont pu établir leur hégémonie en se spécialisant dans la chasse à l'esclave. Alors, évidemment, il y avait une demande très importante. importante de la part des Européens qui s'implantaient et qui se développaient en Amérique et dans la Caraïbe. Et puis, évidemment, avec toutes les retombées que ça entraînait en Europe, il ne faut jamais oublier que notre développement, notre actuelle prospérité doit en grande partie quelque chose d'important, évidemment, à cette traite négrière. On continue dans le musée de Ouida avec Gabriel.
Ici, nous avons le dernier roi, il s'appelle Khufon.
Ah, d'accord, là, le roi.
Voilà, le roi
qui est là, sur
qui a été intronisé le 15 avril 1725.
D'accord. À la gauche du roi, il y a
les
ces
femmes. Du roi.
Il y a une trentaine de femmes.
Oui.
Là, il y a quelqu'un...
qui est en train de l'éventer.
Avec un voile, un tissu.
Oui.
Devant, il y a deux, on croit qu'il y a des enfants.
Pygmées.
Mais ce sont des pygmées.
Oui, oui.
À droite, là-bas.
Non, toujours à gauche du roi.
À gauche du roi.
Nous avons les guerriers.
Les guerriers.
En bas.
Les tam-tameurs.
Les tam-tameurs.
C'est-à-dire tambour,
oui,
et
oui.
Corps et flûte, etc.
C'est ça. Ici, nous avons la population, en bas.
La population qui est dissimulée sous les arbres.
Oui,
qui...
oui. Ici, nous avons les sages de la ville. Et à la droite du roi, nous avons les invités blancs. Et
à l'extérieur,
nous avons deux hommes qui sont en train de mettre feu au canon pour marquer l'événement.
Là, il y a un panneau qui nous dit « Les souverains d'Afrique noire n'étaient pas les initiateurs de la traite négrière, certes, mais finalement, nombreux s'en étaient enrichis.
Oui. » Hein.
C'est-à-dire que la traite négrière, en gros, elle a rapporté essentiellement aux puissances coloniales,
oui.
Mais
les autorités, sinon les rois d'antan en avaient bénéficié. Oui. On continue. Ici, nous avons Francisco Félix de Souza. C'est un Brésilien. Il a fait beaucoup le commerce d'esclavage. Il a été directeur de ses forts. Il a été un ami intime au roi Gezo. Et comme ce roi a 4000 femmes, Francisco Félix de Souza en a abusé aussi. Il a pris 52 femmes. Et il a reconnu 100 enfants. Voici son premier fils. Celui-ci est l'arrière-grand-père de l'actuel archevêque de Cotonou. Voici son second fils. Et comme il a 100 enfants, nous avons la famille de Souza au Ghana, on en a au Togo, on en a au Dahomey, on en a au Nigeria.
Ce que vous me dites, c'est que
l'archevêque de Cotonou.
L'actuel archevêque de Cotonou descend d'une famille d'esclavagistes.
Oui, oui.
Non seulement Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, descend d'une famille esclavagiste, tout à fait, et c'est un homme très important pour le Bénin, qui notamment a déclaré une chose très intéressante sur l'esclavage et sur ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à cette région du monde. Il a évoqué quelque part ce sentiment de perpétuelle victime, cette mentalité servile et ce complexe d'incapacité qui conduit les Africains à douter d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sombrer et se contenter du victimisme. Mais n'oublions jamais que la mémoire est l'étoffe des rêves. Et quelqu'un comme Bruce Chatwin devait le savoir lorsqu'il a écrit un livre formidable que je vous conseille qui s'appelle « Le vice-roi de Ouida » qui raconte exactement le personnage face auquel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire Francisco Félix de Souza, dit Chacha, ce Portugais du Brésil, blanc et marchand d'esclaves, qui, dans les premières années du 19e siècle, s'était installé dans ce fort portugais de Ouida, où nous sommes, et qui s'était fâché avec le roi du Dahomey de ce moment-là, à tel point que le roi en question le fit tremper, écoutez bien, dans une cuve d'indigo d'indigo. Pourquoi ? Pour qu'il devint noir. Pourquoi noir ? Parce que dans cette condition, il pouvait le condamner à mort. Parce que s'il était blanc, c'était impossible. Un blanc, c'est un revenant. Un blanc, c'est transparent. Donc on ne peut pas tuer quelque chose de transparent. Il fallait qu'il le colore. Et voilà une histoire qui est évidemment passionnée pour le Chatwin, qui a raconté cette histoire d'une manière romancée dans le vice-roi de Ouida. Et alors, vous voulez savoir la suite ? Eh bien, la suite, elle est devant nous. Il y a devant nous le descendant de Francisco Félix de Souza, c'est-à-dire Norberto Prosper de Souza. Donc Francisco Félix de Souza. Alors qui c'était ?
Donc Francisco Félix de Souza est né à Bahia le 4 octobre 1754. Il arriva pour la première fois sur la côte d'Afrique, précisément au Dahomey, en 1788 à l'âge de 34 ans.
Il était portugais ?
Il était brésilien.
D'origine portugaise.
Blanc. Blanc, il était tout à fait blanc. Le roi Dahomey, quand il fait des guerres et arrêtait des prisonniers, on les tuait. Donc Francisco lui a dit que ce n'est pas bon de lui laisser et il va les envoyer aux États-Unis, en Amérique.
Ah, c'est-à-dire que lui, il était un acteur important dans la traite négrière.
Des négrières.
C'est ça. C'est-à-dire que votre ancêtre prenait prétexte, disait, c'est quand même mieux d'en faire des esclaves plutôt que les exécuter.
De les exécuter.
Et ça, c'est une des raisons de sa prospérité.
Et donc,
de fil en aiguille, de votre prospérité, de la prospérité de la famille.
De la famille de Souza.
Donc, on peut dire que la famille de Souza est une famille d'esclavagistes.
pas pour autant. C'était le commerce qui était en vogue de leur temps. C'était le commerce qui était en vogue de leur temps.
Mais ça vous fait. C'est quand même pas rien d'être descendant d'un grand négrier, d'un grand esclavagiste. Oui. C'est pas rien dans votre conscience.
Mais je dois vous dire que Don Francisco n'a pas péché quand il vendait ses esclaves. Au contraire, il les a libérés de la mort.
C'est l'argument.
Mais je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. Nos points de vue seront divergents, je suis sûr. Mais c'est ça qui est ancré dans mon crâne. Vous dirai qu'il n'a pas mal agi de son temps.
Au contraire,
ses esclaves, il les a sauvés. Car on les tuait. Ouais. On les tuait.
Quitte à les tuer, mieux valait les faire mourir plus tard.
Non.
Pas du tout.
Mieux vaut les envoyer dans d'autres continents, c'est tout.
Combien en a-t-il exporté, selon vous ?
Je ne connais pas le nombre.
On ne sait pas.
Je suis de la quatrième génération. Le voilà. Il a mis au monde mon grand-père.
Que voici
Chico.
Alors, Chico, il était noir. Donc là le métissage commence.
Oui, le métissage commence. Et Chico a mis au monde mon père, qui est le sixième Chacha. Et je suis descendu de lui. Quatrième. 1, 2, 3, 4.
Chacha, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Chacha ?
C'est Gizuki lui a donné son nom, parce qu'il marchait rapidement.
Donc vous,
Chacha veut dire rapidité et promptitude.
Rapide, cha-cha-cha-cha. C'est ça, cha-cha.
Et ça vous est resté dans la famille ?
Oui.
Est-ce que dans la famille, vous êtes toujours rapide et prompt ?
Pressé. On est tout le temps pressé, parce que les affaires sont les affaires. Hein ?
Quelles affaires vous faites aujourd'hui ?
Je suis inciteur. Et je suis à la retraite, ça fait 14 ans. J'ai fait 32 ans de pédagogie pratique. À l'heure actuelle, je vais au champ.
Singulière rencontre quand on sait que les gens avec qui nous nous trouvons sont très importants pour le Bénin. Chaque année, près de 4000 membres de la famille de Souza venus du Nigeria, du Bénin, du Togo, même d'outre-Atlantique, viennent fêter l'illustrissime ancêtre avec des accordéons comme on en entend dans le nord-est du brésilien. On y mange des cuisines brésiliennes, etc. Alors qu'on est tout simplement... Enfin, on va pas dire descendant d'esclavagistes, puisque notre ami pourrait avaler un serpent qu'il ne le reconnaîtrait pas. Négationnisme, ici et là.
Les ancêtres sont enterrés ici. Et l'aïeul même est dans la chambre. Ouvrez. la gueule de Satan, son lit, la jarre d'eau qu'il a fait venir du Brésil. Ah. Et il y a des objets que nous allons exposer dans cette salle et dans d'autres salles. On veut faire d'ici un petit musée privé.
Alors on entre dans une pièce.
Voilà.
Il y a un lit à baldaquin très haut, voilà. Comme ça.
C'était son lit. Il dormait sur ce lit. Le lit est venu du Brésil. Évidemment, le matelas est de nos jours.
Oui.
Et voilà, ça tombe. Et Francisco Félix de Souza. Nasceu, né. C'est en portugais. Faliceo, décédé le 8 mai 1849.
Un an après l'abolition de l'esclavage.
Après.
Ouais.
Après.
Mais vous êtes très fier de votre ancêtre, alors.
Vraiment fier. On est trop fier de lui.
Ouais.
Il n'a commis aucun crime.
Et personne ne remet en cause le fait... Ça ne vous frappe pas, vous, Gabriel, qu'on honore à ce point quelqu'un qui a été un esclavagiste?
Oui, ça ne m'étonne pas à partir du moment où le vieux, c'est-à-dire le représentant de Souza, en explication, a dit que le roi d'antan tuait ce qu'ils appelaient prisonniers de guerre. Et que c'est sur l'initiative de Souza qu'il a été donc proposé de faire partie ceux-là pour qu'ils vivent sur une autre terre. Alors, chez nous, ici, on préfère vivre malheureux que de mourir dans la joie. Voilà.
Voilà. On avait fait une cérémonie ici, route de l'esclave. Les gens sont venus d'un peu partout. Mais ils disent qu'ils sont fiers d'être fils d'esclaves ailleurs parce que leurs frères laissés ici sont misérables. Eux autres, ils ne sont pas comme ça.
Que dites-vous des conditions dans lesquelles ces gens sont envoyés, des conditions de voyage? Et que dites-vous aussi de tous ceux qui sont morts?
Bon, je m'excuse, hein. Don Francisco les livrait à la place d'ici. C'était les gens, je m'excuse, de peau blanche qui les traitaient comme ça. Le bateau peut contenir 200. On y mettait 1000. Et il en mourait beaucoup, on les jetait à la mer. Ce sont les Blancs qui faisaient ça. Et s'il y a crime, c'est à partager en trois parties. Les Occidentaux doivent ramasser deux parties. Ils sont les plus criminels. Je m'excuse, hein. On les traitait comme des animaux. Et sincèrement.
Mais c'est lui qui a proposé ce commerce.
Ben oui, c'était votre ancêtre qui était l'animateur.
C'était son intention, c'était de les sauver. S'il les mettait ici, le roi les tuait. C'était ça. On peut... Vous pouvez avaler un serpent vivant devant moi, je dirais tout ce que je suis en train de dire. Je le dis à cœur ouvert, je le dis sincèrement. Il n'a pas péché, hein, contre la nature. Je condamne les Blancs qui ont malmené ces esclaves.
Mais lui, il était blanc.
Hein?
Il était blanc.
Il
était blanc.
Mais il les a sauvés ici.
Oui, d'accord, mais il était blanc.
Il était blanc. Mais ces Blancs qui ont maltraité, Don Francisco ne frappait pas.
Mais qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter ça? Il pouvait quand même proposer d'autres conditions de voyage.
Ah non, il ne peut pas... En ce temps-là, c'était le commerce qui était en vogue. Il ne peut pas laisser ces hommes-là à la terre béninoise ici. Le roi... Mais vous avez appris... À partir du CEE, le roi, c'était une phrase là, le roi avait pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Il fallait les expatrier. On ne peut pas m'obliger à dire le contraire de ce que je pense.
Mais bien
c'est
sûr.
Pourquoi je dis, vous pouvez tout dire, le loup mourra dans sa peau.
Et pourquoi vous dites avaler un serpent? Qu'est-ce que ça veut dire?
Avaler un serpent, c'est une chose horrible. Si vous faites ça, je n'aurai pas peur. C'est ça. Je n'aurai pas peur.
Et c'est de là qu'on partait. C'est de là que partaient les esclaves, enchaînés, attachés, comme on l'a vu, liés, triés, parce qu'on ne gardait que les plus robustes, les plus costauds. On les maquillait pour les vendre, ceux qui avaient des poils blancs, on les teignait, on essayait de les mettre en bon état pour que la marchandise soit présentable, et ceux qui n'étaient pas en bon état, alors qu'ils étaient malades ou qu'ils faisaient les malades, eh bien on les abattait, on les enterrait dans une fosse commune qu'on voit maintenant, aujourd'hui, parce que cette sorte de chemin de croix
aujourd'hui, alors, est mémorisé. Il y a tout un mémorial qui nous conduit jusqu'à la plage, jusqu'à la porte du non-retour. Et chemin faisant, nous nous arrêtons justement devant l'arbre du retour où nous rencontrons M. Kakanou Martin.
Alors ici, je crois que vous avez déjà été à Zomaï.
Oui.
Donc c'est là qu'ils sont marqués, un peu à la hauteur de l'épaule.
Au fer rouge.
Au fer rouge.
Au Zomaï.
Rougi au feu, oui. À Zomaï. À Zomaï, là. Donc chaque commerçant avait son signe. Les esclaves qui venaient de la cave de Zomaï, et à l'arrivée du navire qui devait les transporter, ceux qui sont bien portants font trois fois le tour de ce arbre. Mais par contre, ceux qui sont malades, c'est là-bas qu'on les amène. Et quand ces esclaves n'ont pas la chance de survivre, ils meurent et on les jetait dans la fosse commune. Donc, on les jetait même vivants. On les jetait, ceux qui n'ont que la peau sur les os, on les jetait vivants parce que bon, on a l'impression ou bien on sent déjà qu'il ne peut plus aller rien faire là-bas. Parce qu'on a besoin des hommes solides, gaillards.
Là, c'est un... C'est assez impressionnant. Assez impressionnant, ce mémorial qui est érigé devant la mer. Un ciel bleu, bleu, une chaleur terrible sur nous. Et c'est la porte du non-retour. C'est, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les esclaves partaient... de là, sans espoir de retour. Les esclaves, en arrivant sur cette plage de Djegbaji, foulaient pour la dernière fois le sol de l'Afrique et s'en allaient sans espoir de retour vers un destin horrible et funeste. C'est ce que symbolise la partie du monument tournée vers la ville de Ouidah. Par contre, côté mer, la porte symbolise, malgré les souffrances et les douleurs subies, le retour du souffle des ancêtres revenus de l'au-delà des mers, ainsi que les liens indissolubles qui rattachent la diaspora nègre à la terre africaine. Le bourreau avait tué une fois en instituant l'holocauste des esclaves noirs, en construisant au nom de la tolérance, de l'écoute mutuelle et de la coexistence pacifique des peuples, ce monument. Afin d'empêcher l'amnésie historique de s'installer et le silence de tuer une seconde fois, les dizaines de millions d'esclaves qui, par leur sang et leur sueur, ont enrichi les initiateurs et les destinataires du commerce triangulaire du bois d'ébène.
Et voilà ce que vous avez toujours discuté là-bas, la Revena.
Tu veux dire que il y a des revenants d'esclaves?
Vous savez, chez nous ici, quand un parent meurt, un grand-parent meurt, après quelques années, il revient. Il revient sous autre forme, comme fétiche, qu'on adore.
Oui, oui.
C'est ça.
C'est ça qui est représenté
oui,
là.
Oui, c'est ça qui est représenté là.
C'est-à-dire qu'il y a... on croirait
c'est,
une sorte de...
C'est l'accoutrement du...
L'accoutrement, voilà. C'est une sorte de borne, comme ça, pour nous, très coloriée, avec des représentations d'animaux, de
oui,
caméléons, d'oiseaux, d'éléphants, avec des décors
verts. Ça veut dire que ça a toute force. Ça veut dire que les esclaves, quand ils ont tourné autour de l'arbre, de retour, pour revenir... Ce n'était pas eux-mêmes qui vont revenir, mais leurs âmes vont revenir.
Ouais.
Et quand l'âme revient, ça revient sous cette forme.
Donc, actuellement, votre pays est peuplé des âmes,
oui,
des esclaves qui sont revenus.
Des ancêtres.
C'est ça.
Oui. Et ils peuvent retourner là-bas. Un parent qui a de petits-fils ici et qui a aussi de petits-fils là-bas, il vient ici, il quitte ici, il va là-bas aussi.
C'est ça. Il y a un lien entre l'Amérique et l'Afrique. À travers
le vaudou.
À travers le vaudou.
Oui, les ancêtres.
C'est ça. Et l'esclavage est le symbole d'un lien douloureux entre l'Afrique et l'Amérique.
Et l'Amérique.
Merci à toutes et à tous, c'était une nouvelle version d'un reportage de 1997 avec l'ami Guy Van Cotil au Bénin. Jeudi 12h30, notez bien, rassemblement est prévu à l'initiative de la CGT pour protester contre les politiques d'austérité et en faveur de l'amnistie sociale et de la sécurisation de l'emploi. Rendez-vous à 12h30 devant l'Assemblée nationale à Paris. Ce jeudi, nous en reparlerons dans les prochains numéros de Là-bas si j'y suis. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, Émission, Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur là-bas.org, la-bas.org, et puis vous pouvez réécouter la fameuse émission de vendredi sur les poètes du répondeur. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon et Nicolas Jaillot. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupart. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Tabou de Miguel Gomez en DVD.
Aurora, tinha uma
fazenda
Aurora
avait une ferme en Afrique, au pied du mont Tabou. De nos jours à Lisbonne, elle se souvient des fantômes de son passé et de sa rencontre avec Ventura, là-bas, en Afrique. Tabou, coup de cœur de la presse et du public. Un DVD France Inter.
Tu vis avec quelqu'un ?
Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce ?
Après une séparation, France Inter présente Le Passé, le nouveau film de Asghar Farhadi, en compétition officielle au Festival de Cannes.
Ma mère t'a rien dit ?
Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim et Ali Mossafa.
Bah c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois ?
Le Passé, un mélodrame aux allures de thriller. Au cinéma le 17 mai. Retrouvez Le Passé de Asghar Farhadi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
C'est maintenant l'état de santé des deux patients de Lille qui s'est dégradé. Selon le CHRU de Lille, leur pronostic vital est engagé, mais il existe des chances raisonnables qu'ils puissent s'en sortir, assure le chef du service réanimation de l'hôpital. La France comptait au 1er janvier dernier plus de 218 000 médecins en activité, un chiffre en augmentation sur un an selon les statistiques des ministères sociaux qui, dans le même temps, expliquent dans un document que par rapport à la population, leur densité diminue. L'âge moyen des praticiens est de 51,3 ans, près de 42% sont des femmes. On compte aujourd'hui 333 médecins pour 100 000 habitants et sans surprise, les régions Provence, Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France sont les mieux dotées. En Algérie, les hôpitaux, eux, marchent au ralenti aujourd'hui, conséquence d'une grève du personnel paramédical, des fonctionnaires aussi de la santé, mais aussi des médecins. Tous réclament la revalorisation de leur statut et des augmentations de salaire. 15 morts au moins et une trentaine de blessés. Premier bilan donné cet après-midi dans l'attentat de Benghazi en Libye par le ministère de l'Intérieur libyen. Un médecin affirme de son côté que le bilan est beaucoup moins élevé. Il n'empêche, une voiture piégée a explosé près de l'hôpital de la ville. L'explosion a totalement détruit un restaurant et gravement endommagé également des immeubles à proximité. Un chasseur F-16 turc s'est écrasé aujourd'hui près de la frontière syrienne. Son pilote a réussi à s'éjecter. Alors les causes du crash ne sont pas connues, mais cet accident intervient deux jours après le double attentat, là encore près de la frontière avec la Syrie, qui a fait 48 morts. La Russie les a condamnés cet après-midi. Elle demande maintenant une enquête minutieuse. La Syrie lancera d'ailleurs question encore aujourd'hui à Washington. David Cameron, le Premier ministre britannique, est reçu actuellement par Barack Obama à la Maison-Blanche. Qu'il pourrisse en prison jusqu'à son dernier souffle, O'Neill Castro, l'un des frères d'Ariel Castro qui a retenu trois jeunes américaines pendant 10 ans dans sa maison de Cleveland, s'est exprimé aujourd'hui sur CNN. « Je me fiche, dit-il, de savoir s'il le nourrisse en prison après ce qu'il m'a fait à moi et à ma famille. » Les photos des deux frères ont en effet été brocardées dans la presse. Pedro Castro, l'autre frère, assure lui que s'il avait su ce qu'il faisait, j'aurais, dit-il, appelé les flics dans la minute. Je n'allais pas souvent chez lui, mais quand j'y allais, il ne me laissait pas aller au-delà de la cuisine. Il avait mis des rideaux. Il disait que c'était pour garder la chaleur dans la cuisine à cause de la facture de gaz. Les deux frères assurent avoir reçu des menaces de mort. « Ça va me poursuivre parce que les gens vont croire que j'ai quelque chose à voir avec ça. Ça m'a tué. Je suis un mort-vivant, dit l'un des frères. Je souhaite que les familles obtiennent justice, toute la justice. » Le procès du père du joueur de tennis Bernard Tomic ne sera pas jugé demain à Madrid. Son procès a été reporté au mois d'octobre. John Tomic est accusé d'avoir agressé le partenaire d'entraînement de son fils. Le franco-monégasque Thomas Drouet a été frappé, l'a le nez cassé. Légitime défense lors d'une bousculade, a déclaré pour se justifier John Tomic. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
vendredi, à partir de 18h.
C'est pas notre première fois à nous, non.
Vanessa Paradis est sur France Inter.
Ah d'accord.
En live.
De pouvoir jouer les chansons, ça peut être drôle, ça peut être joyeux.
Un rendez-vous exceptionnel.
En tout cas c'est fort.
Présenté par Rebecca Manzoni.
Love Songs, c'est le titre de son album. Le studio 105, c'est le lieu. Vanessa Paradis y chante des morceaux composés par d'excellents garçons, dont Benjamin Biolay. Ça donne un concert, donc en public et en direct.
Vanessa Paradis, en live,
ouais,
sur France Inter.
C'est un moment très fort.
À suivre vendredi, à partir de 18h. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour, monsieur l'Odéon.
Ben, bonjour, Laetitia Gaillet. Je vous ai beaucoup entendu le matin pour la revue de presse.
Ben oui, des fois ça change.
Et c'était très bien aussi.
Merci, c'est gentil.
À tout à l'heure, 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Musique populaire, musique savante, y avait beaucoup de mélange autrefois, moins aujourd'hui, c'est peut-être dommage d'ailleurs. En tout cas, Béla Bartók, le Hongrois, a su capter des mélodies, des danses, des rythmes dans les pays avoisinants, dans le sien aussi. Et voici un exemple bien typé, deux polkas tirés des danses populaires roumaines. Polka tiré des danses populaires roumaines de Béla Bartók par Marianne Nordman, qui était avec nous mardi dernier, et Nemanja Radulovic au violon. Donc Marianne Nordman, elle en a parlé ici même, elle est la directrice artistique des musicales de Bagatelle, c'est dans le Bois de Boulogne à Paris, et il y a des concerts à partir de samedi 18 mai à 15h, et ça se termine un peu plus tard à 15h aussi, le lundi. Alors il y a, je le rappelle un peu, Juliana Steinbach au piano avec Tonicello au violoncelle, pour commencer. C'est à 15h, on peut amener les bébés, on peut amener les tout jeunes qui ne veulent pas d'ailleurs, mais enfin qui pourraient apprécier la musique. Et à 18h, il y aura Hélène Couvert au piano. Ça continue comme ça, Valérie Aymard au violoncelle le dimanche 19 à 15h avec les Strauss Richard et puis Johan, le soi-disant sérieux et le soi-disant léger. Jonas Vito le 19 à 18h, grand pianiste avec de la musique romantique. Et puis l'alto de Karine Le Tiec avec la mandoline d'Alon Sariel. Lundi à 15h, c'est à Bagatelle et on vous propose des places, donc les organisateurs, à l'Orangerie du Parc de Bagatelle. N'appelez pas tout de suite le numéro de France Inter. Voici le numéro que vous pouvez essayer. 01 45 43 77 58. Je répète, 01 45 43 77 58. Et là, vous discutez avec les gens qui vous accueillent et vous pouvez choisir les concerts qui sont encore disponibles et ceux que vous souhaitez. Voilà. Alors, on ne dit pas bonne chance, mais enfin, on le pense fort, il y a 100 places, donc c'est pas mal. C'est une belle dotation pour ces musicales de Bagatelle. Comment on y va ? Eh bien, c'est le Bois de Boulogne, donc on peut aller à l'allée de Longchamp, à la grille d'honneur, métro porte-maillot, autobus 244. Et ben lui, il n'a pas connu l'autobus, il n'a pas connu le métro non plus, il voyageait en voiture à cheval, mais il a connu la science musicale au plus haut niveau, Jean-Sébastien Bach, inspiré comme Bartok de pas mal de musique populaire. Il a écrit des gigues, il a écrit des gavottes, il a écrit des menuets, etc., etc. Et pourtant, la musique purement construite, la musique intellectuelle, la musique de recherche, en quelque sorte, expérimentale, il la connaissait aussi, pour exemple, le premier mouvement Allegro du premier concerto brandebourgeois.